Avant de vous parler de l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, je voudrais répondre à une question. Quand on meurt, combien de temps faut attendre pour ressusciter? Et en attendant, qu'est-ce qu'on devient, où est-ce qu'on va? C'est une excellente question. Mais pour y répondre, il faut penser à quelque chose. Tant qu'on est sur la terre, on est soumis à des lois qu'on appelle naturelles, qui ne sont pas tellement, pas tant que ça. Ces lois-là, c'est un résultat de notre péché depuis les premiers hommes, depuis Adam et Ève. Depuis, nous sommes dans le temps et dans l'espace. Si nous sommes ici, nous ne sommes pas à Tokyo. Et si c'est aujourd'hui, ce n'est pas hier et ce n'est pas demain. Donc on est dans le temps. Mais l'autre vie, c'est un peu compliqué parce que l'autre vie, elle commence aussi déjà maintenant. Nous avons deux niveaux de vie. Ce niveau de vie tout de suite physique, si on peut dire, physique, intellectuel, où on est limité, on est dans le temps et dans l'espace. Mais en même temps, on vit à un autre niveau. Il y a un autre niveau, c'est le niveau éternel. Où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Mais ça existe bien, c'est réel. Et c'est ce qu'on appelle l'éternité. On ne peut pas dire que c'est le temps de Dieu, on ne peut pas dire que c'est le temps éternel, parce que justement, ce n'est pas du temps. Ça ne se calcule pas avec une montre. Et tant qu'on est sur Terre, on vit dans le temps et dans l'espace. Mais après notre mort, on est projeté, on est enlevé, on est élevé dans un autre état qu'on appelle un royaume, si on veut dire, le royaume des cieux, là où est Dieu, où sont les anges, les saints. Là, quand on dit là, on dirait que c'est un lieu. C'est pas un lieu, c'est un état. Donc quand on meurt, on arrive directement dans cet état-là. Donc la résurrection, c'est un passage. La résurrection, c'est le passage entre l'état de vie dans le temps et dans l'espace et l'autre état de vie hors du temps et hors de l'espace. Donc quand on meurt, on arrive directement dans l'éternité. Et si on est dans l'éternité, c'est donc la résurrection. Donc quand une personne meurt, la personne est immédiatement dans la vie éternelle. Elle ressuscite à ce moment-là. C'est comme ça d'ailleurs que certains saints, avec la permission de Dieu, certains saints peuvent nous apparaître, peuvent nous parler, parce qu'ils sont ressuscités. Simplement, dans ce phénomène de la résurrection, nous qui sommes sur Terre, limités encore par le temps et l'espace, nous n'avons pas la vision de cela, ou rarement, ou exceptionnellement, ou quelques-uns simplement. Mais quand on est, par exemple, à la liturgie, mais aussi quand on est dans la prière, puis finalement toute notre vie, mais on en est moins conscient, on peut passer de cette vie, de l'état de cette vie à l'autre état de vie. Quand on est dans la vraie prière, je ne dis pas qu'on récite des formules, ça c'est pas de la prière, ça peut aider mais c'est pas de la prière. Quand on est en état de prière, il y a un pont, si vous voulez, il y a un pont qui ne permet pas de nous trouver tout de suite dans l'éternité, de nous trouver avec les ressuscités. Les sacrements, c'est le même pont qui permet à ce qui est céleste, à la grâce divine, si vous voulez, appelez ça comme vous voulez, tout d'un coup, de descendre sur Terre, de descendre dans le temps et de l'espace, et de se montrer accessible. Il y a 3 jours, on a célébré la théophanie, le baptême du Christ. Quand on a célébré ça, nous étions présents avec Jean-Baptiste à être témoins de la descente du Christ dans les eaux du Jourdain. Nous avons été témoins. Vous l'avez chanté tout à l'heure. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi. Les prières sont des mensonges ou c'est une réalité? Nous l'avons vu, ça. Quand on est à la liturgie, on est présent avec la Mère de Dieu et Saint Jean au pied de la croix. On est présent avec les saintes femmes au tombeau. On est présent avec les bergers et avec les mages dans la grotte de Bethléem. On n'est pas présent physiquement, bien sûr. Mais notre vie, elle n'est pas que physique. Elle n'est pas d'ordre de l'imagination non plus. C'est pas j'imagine. Vous savez, quelquefois, il y a une confusion dans notre vocabulaire. Quelquefois, on dit on est en communion les uns avec les autres. Je suis en communion avec telle personne. Dans le vocabulaire courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai les mêmes sentiments que la personne. Je réagis de la même manière. Ou je pense à elle, elle pense à moi. Souvent, c'est ça la communion. Faire la même chose plus ou moins en même temps. Mais la vraie communion, c'est pas ça. Ça, c'est de la communion psychologique, affective, intellectuelle, si vous voulez. La communion, la vraie communion, c'est de vivre, d'être la même chose que l'autre. La communion, c'est d'avoir un point commun ou d'être un point commun. Je ne peux pas vous donner d'exemple ici, puis je n'y tiens pas trop d'ailleurs, mais enfin bon. Imaginez que j'ai 2 pièces de métal. Ah bah tiens, la cloche et la cuillère, là. Jamais la cloche et la cuillère ne seront en communion. Jamais. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Mais si j'amène un courant électrique dans l'une et dans l'autre, les cloches ne vont pas être en communion par le courant électrique. Si je touche ailleurs, moi aussi je vais être en communion avec elles. C'est pour ça que je vous dis, je ne tiens pas à y être. Et la communion entre les hommes, elle est possible comment? Elle est possible parce que les uns et les autres, nous sommes en communion avec le Christ, avec Jésus, qui est Dieu et qui, dans ce qu'il est, dans sa nature, englobe, prend aussi notre nature et nous unit. Le Saint-Esprit, l'exemple est mauvais, hein, ne le retenez pas, mais c'est juste pour l'instant que pour vous faire comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est un petit peu comme ce courant électrique. Et nous, les hommes, on est comme la cloche et comme la cuillère. Et le courant électrique vient vivifier, vient électriser, vient faire vibrer et la cloche et la cuillère. Et c'est comme ça que, si moi je suis la cloche, le Christ est la cuillère. Ne retenez pas ça, puis ne le publiez pas. Hein, c'est la limite de l'hérésie quand même. Hein. Et c'est pour essayer de vous trouver une image, parce que ce n'est pas facile. Et ce courant électrique, si je peux dire, pour continuer dans cet exemple-là, il vient d'ailleurs, il vient du ciel, si vous voulez, et il nous met en communion les uns avec les autres. Et il nous met en communion avec le royaume éternel, avec la vie éternelle. Donc, nous pouvons, de fait, être en communion avec les défunts. Et c'est comme ça que nous sommes que nous connaissons, que nous expérimentons dans notre être même, la communion avec la communion universelle, la communion des hommes. Quand vous priez, vous êtes unis, vous êtes un avec tous ceux qui sont présents dans votre cœur, et même avec ceux que vous ne connaissez pas, avec ceux qui sont ailleurs, n'importe où sur la terre. Et vous êtes aussi en communion avec tous ceux qui ont vécu depuis les origines. C'est comme ça que le jour de l'Ascension, par exemple, les textes de l'Office disent que nous sommes déjà montés avec le Christ dans le royaume des cieux. Nous, on a l'impression d'être bien sur terre, mais nous sommes aussi dans le royaume des cieux. Mais d'une manière invisible, mais réellement. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu, malgré mes exemples débiles. Et puis, il y a autre chose que je voudrais vous dire au sujet de l'évangile de ce jour. Vous y croyez, justement, à la résurrection ? Vous croyez à la vie éternelle ? Ouais, ouais. On va avoir de la chance. Donc, vous croyez que le Christ qui est mort il y a 2000 ans et qui est ressuscité, vous croyez qu'il est présent ? S'il est présent, ça veut dire que tout ce qu'il a vécu, il le vit encore. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, il le dit encore. Donc, quand vous entendez dans l'Évangile, comme c'était le cas ce matin, qu'après son baptême, il est allé prêcher, essayer de convaincre, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que c'est une parole qu'il a dite il y a 2000 ans et qui est terminée, ou est-ce qu'il l'a dit encore aujourd'hui ? Il l'a dit encore aujourd'hui. Donc quand vous entendez, encore ce que nous entendons ça, parce que c'est pour tous évidemment, et c'est une parole actuelle, comme toutes les autres paroles du Christ, paroles qui ne meurent pas, qui ne s'effacent pas, qui s'actualisent à chaque fois que nous l'entendons, ce qui nous donne le devoir de le mettre en application. Repentons-nous parce que le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce que c'est ? En quoi consiste le repentir ? Il y a de multiples facettes, mais le repentir, c'est de changer notre regard sur les êtres et les choses. Un aspect du repentir, c'est ce qu'on a dit précédemment. Vous voyez bien que votre vie sur Terre dure un certain temps, relativement limité, et vous ne voyez pas le royaume des cieux. Et pourtant, si vous avez le repentir, si vous avez l'humilité, vous savez, vous adhérez au royaume des cieux. Le repentir, c'est changer son regard, changer ses habitudes, changer ses centres d'intérêt, ses besoins. Le repentir, c'est avoir l'humilité de savoir que tout ce qui est sur terre n'a d'importance que dans la mesure où nous sommes justement sur terre, mais que ça n'a pas de valeur éternelle. Vous avez, comme tous, vous avez un compte à soi, vous avez un honneur personnel. Si on vous retire cet honneur, si on vous le dénie, qu'est-ce que ça change ? Vous êtes dans un autre univers, vous êtes dans le royaume des cieux. que les gens ont de la reconnaissance et qu'ils n'en ont pas pour vous, qu'est-ce que ça peut faire? Se repentir, c'est ne pas s'attacher exclusivement aux choses de la terre. C'est normal de manger, il faut bien survivre. C'est normal, quand on offre à manger, d'offrir ce qu'il y a de meilleur. Donc ça ne condamne pas. Le repentir ne condamne pas la vie simple, si vous voulez, la vie humaine, la vie logique. La vie... Mais c'est ce qui est condamné, c'est de faire de ces choses terrestres le but de notre vie. De ne passer son temps qu'à bien manger, à être en permanence chez McDo. Oh, je fais de la réclame. Se repentir, c'est mettre toute notre énergie pour essayer de découvrir justement ce qu'est la vie du royaume des cieux. Le repentir, c'est encore lutter autant que faire se peut pour abandonner notre, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est la mode, d'appeler notre ego, notre propension à se centrer sur soi-même. Ça me fait plaisir, j'ai envie de moi-je. Nous sommes tous des moi-je. On capte les choses. C'est comme ça qu'on se permet d'avoir des jugements sur les autres. On juge les autres d'après ce qu'on croit qui est bon, ou d'après soi-même. Et le repentir, c'est l'abandon de ça, l'abandon de sa volonté propre. C'est la raison pour laquelle, dans l'éducation, la première chose qui doit entrer en ligne de compte, c'est d'apprendre à ceux qu'on a la charge d'éduquer, de leur apprendre l'obéissance. Pas la discipline, ça c'est autre chose, mais l'obéissance, c'est-à-dire de pouvoir renoncer à sa volonté propre. Le repentir, c'est de mettre l'importance dans les choses de Dieu avant les choses des hommes. Même si évidemment les choses des hommes prennent de notre temps et de notre énergie. Il y a une vocation particulière de pousser ça à l'extrême, enfin, de tendre à le pousser à l'extrême. Cette vocation-là, c'est la vie monastique. Ou dans la vie des moines et des moniales, autant que faire se peut, chacun à sa manière, à sa mesure, apprend à ne plus faire sa volonté pour ne faire la volonté que de l'autre, sans jugement, sans savoir, sans chercher à savoir si c'est bien ou pas bien, si c'est juste ou pas juste. Il n'est pas demandé que ce soit bien, il est demandé de renoncer à sa volonté propre. C'est-à-dire de mettre Dieu avant soi et de soi s'effacer, s'oublier. Quand le Christ dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », c'est ça que ça veut dire. Et il y a un aspect du repentir qui touche, enfin tout ça, ça touche l'ensemble de l'Église, tous les hommes évidemment, mais qui touche quelque chose de notre conception de l'Église. Souvent, je ne vise personne, je n'ai pas souvent parmi vous, parmi nous, non, mais souvent nous avons une conception de la vie de l'Église, une conception morale. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Qu'est-ce que c'est ça? C'est encore une conception humaine des choses. La vie de l'Église, la vie de l'Évangile ne consiste pas à, en soi, le but, c'est pas de devenir meilleur. Vous avez des sagesses humaines qui sont au moins aussi efficaces. Je ne veux pas faire de réclame pour le yoga ou pour autre, une autre... Non. Cependant, il y a des sagesses, effectivement, qui s'orientent vers la domination de soi-même. Mais vous avez entendu, c'est la domination de soi-même. C'est encore de la volonté propre. Je cherche à devenir meilleur. Notre but, ce n'est pas de devenir meilleur. Notre but, c'est de connaître Dieu, de faire la volonté de Dieu, donc pas la sienne. Donc de renoncer à sa volonté propre, même dans ces choses-là. Et là où je dis qu'il y a une différence de conception qui touche le sens de l'Église, c'est que on peut faire de l'Église une pratique morale. Faire le bien et éviter de faire le mal. Alors que le but essentiel de l'Église, c'est d'avoir une vie mystique. Notamment, je ne connais pas les autres langues orthodoxes, mais en français, avec la tradition, la culture française, quand on parle de vie mystique, on a l'impression que c'est une vie un peu éthérée, réservée à certaines personnes qui ont eu des expériences spirituelles, qui ont fait des miracles, qui ont vu ceci, qui ont vu cela. C'est pas ça la vie mystique. La vie mystique, c'est une vie de rencontre avec le Seigneur. Et c'est ça qui est le repentir principal, d'utiliser notre vie avec les moyens que nous donne l'Église pour rencontrer, pour connaître, pour se laisser unir, pour recevoir le Seigneur. Et ce n'est pas une forme d'orgueil de prétendre à mettre son énergie pour connaître le Seigneur. Mangez si vous voulez, dormez si vous voulez, amusez-vous si vous voulez. Faites n'importe quoi pourvu que ce soit dans le but de la recherche du Seigneur. Évidemment, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je doute que la recherche du Seigneur, que la vie en boîte de nuit, nuit et jour, soit le moyen le plus efficace pour trouver le Seigneur. Mais justement, si votre volonté est de découvrir le Seigneur, de vivre avec lui, vous verrez que d'aller en boîte de nuit, ça ne vous aide pas du tout et qu'au contraire, ça vous écarte. Non, vous n'irez plus. Vous vous sentez visé Voilà, je crois, l'essentiel de l'évangile d'aujourd'hui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est une parole actuelle que le Seigneur nous adresse à chacun d'entre nous. Passer à côté, c'est se moquer de lui, c'est le mépriser, c'est ne pas vouloir le connaître. Et vouloir le connaître, ça veut dire avoir une vie mystique, c'est-à-dire orienter toute notre vie, trouver tous les moyens, mettre toute notre énergie, ce qu'on a comme énergie. Je ne veux pas faire plus que ce qu'on peut faire, mais de mettre notre énergie à voir comment il se manifeste à nous, comment on peut le connaître, comment on peut vivre avec lui. Il y a dans l'Ancien Testament, il y a un merveilleux livre, quelquefois un peu difficile à comprendre, et à comprendre bien en tout cas, qui s'appelle le Cantique des Cantiques. C'est un long poème qui raconte s'exprime les sentiments d'un bien-aimé et d'une bien-aimée dans un jardin, dans un paradis. Le jardin, c'est l'image du paradis, du royaume des cieux et de notre monde, qui est déjà le royaume des cieux, en partie, sous certains aspects plus exactement. Et vous entendez dans la lecture de ce livre-là, le bien-aimé, l'époux, le fiancé, qui cherche par tous les moyens à découvrir sa bien-aimée. Et on voit aussi le dialogue de la bien-aimée qui répond, qui cherche, qui s'éreinte pour trouver son bien-aimé jusqu'au moment où il se rencontre. Dans ce poème, le bien-aimé, c'est Dieu. L'épouse qu'il cherche, c'est l'humanité. Ou mettez autrement, à un autre niveau, l'époux, c'est toujours le Christ, mais la bien-aimée, c'est l'âme de chacun d'entre nous. Le Christ ne le cherche pas globalement, il cherche chacun d'entre nous. Et le repentir, c'est justement le repentir que le Seigneur nous invite à développer, à exercer, c'est la recherche de l'époux, où il est, comment il est, comment on peut le trouver. Et dans cette recherche même, il y a une joie, avant même de l'avoir trouvé, le fait de le chercher est une joie. Et notre vie chrétienne est l'expérimentation de cette joie-là. Quand dans la liturgie, le Christ dit « Paix à vous tous », de quelle paix il s'agit? C'est cette paix-là, de cette joie-là, de cette joie de chercher le Seigneur. Si vous le cherchez, c'est que vous l'aimez. Vous ne vous rendez pas compte, vous voudriez bien l'aimer, c'est-à-dire que vous voudriez bien avoir la jouissance de votre amour. Alors que le véritable amour, ce n'est pas la jouissance de l'amour, c'est de la recherche de cet amour. Je ne vous conseille pas forcément de commencer votre repentir par la lecture de ce livre-là, de la lecture du Cantique des Cantiques. La difficulté de le lire, c'est qu'on imagine tellement qu'on se croit déjà arrivé. Et dès qu'on a le moindre frémissement intérieur, on dira « le Seigneur est là », on a l'impression d'être comme dans le Cantique des Cantiques, c'est déjà le septième ciel. On n'y arrive pas forcément dès la première respiration. Mais ça vaut la peine, une fois ou l'autre dans sa vie, de le lire avec humilité, avec repentir. C'est-à-dire en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant que nous n'avons pas encore trouvé le bien-aimé, en reconnaissant que par de multiples manières, dans notre hypocrisie, nous prétendons le chercher, alors que nous y faisons obstacle, quasi en permanence, et de nous rendre compte, c'est aussi la conversion, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour le trouver, mais que c'est lui qui peut nous trouver, que c'est lui qui peut nous convaincre de son amour et nous unir à lui, et pas nous unir à lui. Vraiment, la conversion, c'est un retournement complet, un changement de perspective. Ce n'est pas moi qui suis le centre, c'est Dieu qui est le centre. Le centre du monde, celui qui fait vivre le monde, le centre de ma vie, celui qui me donne la vie, celui qui me fait mûrir, celui qui me cherche et qui me trouve. Si bien que la conversion consiste aussi à passer notre temps, à orienter notre âme vers une reconnaissance de Dieu, vers une louange à Dieu, vers des actions de grâce, plus qu'en gémissement ou en pleurs, en disant « Oh là là, je suis mauvais, j'arrive à rien, je fais ceci de mal. » Il faut se rendre compte de notre condition de pécheur. Mais ce n'est pas en nous lamentant sur notre état de pécheur qu'on peut avancer dans la connaissance de Dieu, c'est uniquement en se mettant devant lui en toute humilité, en disant « Je ne suis rien, mais toi, fais ta volonté. » Ce qui revient à dire, en profondeur, « Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.